VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Ouagadougou, midi à Yaoundé, bienvenue à notre journal. En Guinée, la tension monte ce mardi au lendemain de la demande par les 7 concurrents du chef de l'État sortant Alpha Condé à la présidentielle de dimanche d'une annulation du premier tour du scrutin pour ce qu'ils appellent des fraudes massives. Le chef de file de l'opposition, Seloud Alaine Diallo, leader de l'UFDG, n'a pas mâché ses mots lors de leur conférence de presse hier à Conakry.
Le scrutin, ça a été une mascarade, une fraude massive qui a organisé toute la journée et qui continue aujourd'hui au niveau des commissions administratives de centralisation de vote. Nous ne pouvons pas vraiment accepter ce scrutin-là. Nous demandons son annulation et nous ne reconnaîtrons pas les résultats.
Les leaders d'opposition maintiennent leur demande d'annulation malgré les appels au dialogue de la communauté internationale. Élections guinéennes toujours, les médias audiovisuels privés diffusent en continu les résultats du dépouillement des bureaux de vote. Par ailleurs, plus de 40 radios ont synchronisé la couverture du scrutin du 11 octobre. Le reportage de notre correspondant à Conakry, Zakaria Camara.
45 radios privées, membres de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée et plus de 100 reporters pour couvrir le scrutin du 11 octobre sur un réseau synchronisé. La Guinée en a l'habitude grâce à l'appui de Chef Common Ground. Pour Aboubakar Dansoko, chef de projet, la synergie des radios va permettre une meilleure gestion des informations.
La synergie avec les radios, c'est pour toucher un maximum de public et essayer de contribuer à l'esprit de transparence qui doit caractériser les élections.
FM 2015, c'est le nom du programme qui est diffusé sur toutes les radios privées, informer les électeurs et faire agir la Commission électorale nationale indépendante. Tel est l'objectif de cette radio, selon Azoko Kaba, son directeur des programmes.
En premier lieu, la mise en réseau des médias pour avoir un seul programme cohérent et consistant à diffuser à l'endroit du public et nous touchons toutes les parties qui sont concernées par le processus électoral, que ce soit les observateurs, les partis politiques qui ont des candidats, mais aussi les simples citoyens qui votent.
Après la fermeture des bureaux de vote, FM 2015 a diffusé quelques résultats, mais ces résultats, précise le coordinateur, sont partiels. Talibé Bari.
Une fois affichés devant les bureaux de vote, les journalistes ont la latitude donc de communiquer à travers notre antenne les résultats affichés devant les bureaux de vote.
Les résultats provisoires seront publiés par la Commission électorale nationale indépendante dans quelques jours et dans 8 jours, la Cour constitutionnelle devra publier les résultats définitifs. Conakry, Zakaria Camara pour La Voix de l'Amérique.
Au Burkina Faso, la justice militaire à Ouagadougou remet aujourd'hui aux avocats le rapport préliminaire sur l'examen des restes du président Thomas Sankara et de ses compagnons assassinés en octobre 1987. Notre envoyé spécial à Ouaga, Bagassi Koura, suit ce dossier et je l'ai contacté ce matin pour un premier compte-rendu.
Depuis 9h, temps universel, les avocats de la famille Sankara et aussi des 12 autres victimes du coup d'État de 87 sont arrivés ici au tribunal militaire. Ils sont à l'intérieur avec probablement les juges militaires pour recevoir donc ce dossier qui concerne l'expertise des restes supposés de Thomas Sankara et de ses 12 autres compagnons. C'est un moment très attendu parce que ça va donner une nouvelle allure à ce dossier qui a longtemps stagné pendant des années jusqu'à la chute en octobre dernier du président Blaise Compaoré et aussi le démantèlement il y a quelques jours du RSE, le régiment de sécurité présidentielle de Blaise Compaoré qui a été pendant longtemps cité dans ce dossier, que ce soit le dossier Thomas Sankara ou encore d'autres dossiers comme Norbert Zongo, le journaliste qui a été assassiné en décembre 1998. Et donc, avec la remise de ce rapport, on s'attend à ce que les avocats prennent connaissance et probablement, dans le courant de la journée, on aura leur réaction, leurs commentaires sur leurs premières impressions sur ce dossier-là.
Est-ce que cette affaire en Sankara suscite beaucoup d'intérêt à Ouagadougou? Est-ce qu'il y a du monde autour du tribunal, des gens qui attendent?
Non, en ce moment, il n'y a pas de monde. Il y a quand même un beau monde de journalistes. C'est la presse surtout qui est là. Mais ce dossier, tout le monde le suit ici, même au-delà du Burkina. Thomas Sankara, pendant des années, ce dossier n'a pas perdu en popularité. Les jeunes qui manifestaient en octobre dernier et aussi récemment portent généralement des t-shirts à l'effigie de Thomas Sankara, qui est quand même le père de la révolution burkinabé.
Bagassi Koura à Ouagadougou.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Crise au Burundi, manifestation des Burundais et des États-Unis devant la Maison Blanche hier à Washington pour demander à la communauté internationale d'agir vite pour mettre fin aux tueries et violations des droits de l'homme dans leur pays d'origine. Au micro d'Eric Manirakiza, les déclarations de Karine Kaneza, leader de la manifestation.
On a décidé de nous joindre à la souffrance de nos frères et sœurs au Burundi. Nous demandons que la communauté internationale, que les Nations Unies, que les gouvernements aillent au-delà d'une simple condamnation de ce qui se passe. Nos frères et sœurs sont torturés, sont tués silencieusement. Au moment où je vous parle, quelqu'un est en train de porter un deuil. Quelqu'un vient de perdre un père, une mère, une sœur, un frère. Nous demandons que la responsabilité de protection soit mise en application sur le Burundi. Nous voulons une force d'intervention pour protéger les citoyens burundais. Nous demandons qu'il y ait un dialogue, qu'il y ait plus de pression pour qu'il y ait des pourparlers de paix entre le gouvernement du Burundi et l'opposition, où qu'elle soit et quelle qu'elle soit, qu'il y ait des pourparlers sans précondition. Et puis finalement, nous demandons une commission d'investigation internationale sur les crimes qui sont en train d'être commis contre le peuple burundais.
Karine Kaneza, membre du Mouvement international des femmes pour la paix et la sécurité. Rwanda, la Chambre des députés, a commencé hier l'examen du projet de réforme de la Constitution pour permettre au président Kagame de briguer un troisième mandat. Initiative qui fait suite à des pétitions en ce sens, signée par 3 700 000 Rwandais. Et puis, nouveau revers dans les négociations pour mettre fin à la crise en Libye. L'émissaire de l'ONU, Bernardino León, n'a finalement pas obtenu le feu vert de toutes les parties au plan de formation du gouvernement libyen d'Union nationale. Ainsi, plusieurs mois de pourparlers de compromis aboutissent encore une fois à une impasse. Et puis, la crise migratoire en Europe. L'Italie est la porte d'entrée des migrants africains transitant par la Libye. Pays où deux parlements rivaux se disputent le pouvoir. Une filière particulièrement dangereuse, nous dit notre envoyé spécial en Sicile, Nicolas Pinault.
Au 9 octobre 2015, selon les derniers chiffres publiés par l'Organisation internationale pour les migrations, 3092 personnes sont mortes en traversant la Méditerranée, dont 2803 vers l'Italie. Cela en fait la portion la plus meurtrière de cette mer qui sépare le vieux continent de l'Afrique. Selon Federico Soda, coordinateur de l'OIM pour la Méditerranée à Rome, environ 90% des personnes qui arrivent par la mer en Italie partent de Libye.
Je crois qu'en Libye, le trafic est assez bien organisé pour pouvoir faire passer, venir autant de gens et les faire prendre des bateaux pour traverser la Méditerranée. Et ça génère beaucoup d'argent puisque la traversée peut coûter plusieurs milliers de dollars.
Après avoir rencontré sur le terrain des migrants, des humanitaires et différents employés d'agences européennes, VOA Afrique a pu déterminer les deux corridors migratoires qu'empruntent les migrants africains dans leur quête de l'Europe. Une route ouest-africaine partant du Sénégal, de la Gambie ou du Nigeria. Les candidats au voyage rallient ensuite Bamako, Gao, Niamey puis Agadez. Ils traversent ensuite la frontière libyenne et peuvent mettre des semaines avant de rejoindre Tripoli pour embarquer sur des bateaux à destination de la Sicile. Samatunkara est un Malien de 23 ans. Il est arrivé il y a quelques semaines en Italie. Il nous dévoile son itinéraire.
Moi, j'ai quitté Bamako Leni le 13 octobre 2014 pour venir à Gao. J'ai quitté Gao maintenant, venir en Algérie. Le premier ville, Borge. On a fait Borge. Après Borge, on a passé Tamarassat. On n'a pas arrêté là-bas. Bon, on a fait 5 mois à Gardaïa. On a quitté Gardaïa pour venir à Libye, en Tripoli.
L'autre route migratoire part d'Asmara ou Addis Abeba. Ceux qui réussissent à passer la frontière soudanaise remontent jusqu'à Khartoum. Ils prennent alors la route périlleuse du Sahara via le Tchad ou l'Égypte pour gagner ensuite le désert libyen. Tripoli est là aussi la destination finale avant de s'entasser par centaines dans des embarcations pour traverser la Méditerranée. Depuis la Sicile en Italie, Nicolas Pinault, VOA Afrique.
Plus de 710 000 migrants sont entrés dans l'Union européenne entre le 1er janvier et le 30 septembre de cette année, contre un total de 282 000 pour toute l'année dernière. C'est ce qu'a annoncé mardi l'Agence européenne de surveillance des agences Frontex, des frontières. Et puis ici aux États-Unis, premier débat télévisé des 5 candidats démocrates à la primaire de la présidentielle américaine de 2016. L'affrontement aura lieu ce soir à Las Vegas dans l'État du Nevada. Merci de votre attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.